Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne en mettant psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Miss Ringuette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette.
Salut à tous, vous écoutez Clittérature sur Radio Campus. Aujourd'hui, c'est une séance un peu spéciale parce que je suis solo, donc Manon, médiathécaire, et je suis accompagnée de la superbe, sublime Nastasia, Nasta, Krenoka, chanteuse de Tévani, enfin bref, on ne sait plus trop comment on doit t'appeler. C'est une séance rien que toutes les deux. On est en terrasse, c'est la première. Et on va parler aujourd'hui d'écoféminisme, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Salut à tous. Salut, Clittérature. Ok.
Alors, donc du coup, aujourd'hui, Nasta, ouais, tu vas nous parler d'écoféminisme. Donc la question, c'est un peu, et si l'emprise des êtres humains sur la nature était soumise un peu aux mêmes règles de domination que celles des hommes sur les femmes? C'est un peu ça, enfin, c'est un peu comme ça, moi, que je voyais l'écoféminisme. C'est ce postulat-là de départ, un courant qui est né dans les années 70 et qui opère un sacré retour en force. Et on le voit surtout dans à la fois l'édition, les rééditions en fait, d'œuvres assez importantes. Et du coup, voilà, Clittérature aujourd'hui va se consacrer sur ce sujet. Et ben, je te laisse la parole.
Je prends la relève. Alors, d'où ça vient? En fait, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Être écoféministe, théorie et pratique » de Jeanne Burgard-Goutal. Et je l'ai acheté un peu par hasard. Je ne savais pas trop dans quoi j'allais tomber, mais il faut dire que ça m'a vachement intéressée. Je vais parler un petit peu aussi de Françoise Daubonne et l'écoféminisme de Caroline Goldblum. En fait, c'est une sorte de petite biographie de Françoise Daubonne. J'en parlerai tout à l'heure pour savoir qui c'est. Et puis, il y a aussi le livre Reclaim, un recueil de textes écoféministes qui ont été choisis et qui sont présentés par Emily H, qui est très très intéressant, et notamment toute la partie d'introduction où c'est Emily H qui explique un petit peu ce qu'est l'écoféminisme. Donc, la petite chronique. Avant que je commence à lire, en fait, ce que j'ai perçu dans les lectures que j'ai pu avoir, donc je suis pas du tout une spécialiste dans le domaine, mais c'est un terme qui est en fait qui regroupe plein de choses, et en plus de ça, il y a pas vraiment de définition. C'est ultra complexe, et d'autant plus avec l'introduction là de Emily H que j'ai lu tout à l'heure, où je me suis dit oh punaise, ok, bon, en fait,
je suis pas du tout,
ouais. Voilà, donc. Alors, c'est donc pour parler de être écoféministe, théorie et pratique, c'est une écriture qui a été initiée par un désir personnel de trouver ou comprendre des solutions potentielles au désordre mondial, qu'il soit écologique ou économique. Donc, on va parler de capitalisme, de rapports de domination, d'inégalité, de patriarcat, etc. En fait, c'est une sorte d'enquête sur l'écoféminisme où Burgard commence par retracer l'histoire de ce courant qui est né officiellement donc dans les années 70. Elle propose ensuite un reportage analytique dans la deuxième partie qu'elle appelle la pratique. Et elle va mener son enquête sur le terrain. C'est ça qui rend en plus vraiment la lecture intéressante. Elle va donc à la rencontre de femmes occidentales, mais aussi orientales, n'est-ce pas? Parce que celles-ci se disent écoféministes. Tout cela dans le but de comprendre les paradoxes de ce courant de pensée. Du coup, pour parler de ce que moi j'ai aimé en tant que lectrice, c'est le fait que l'autrice, qui est professeure de philo à Marseille, se pose toujours plus de questions. Et elle n'est jamais vraiment convaincue par l'écoféminisme. Du coup, elle passe vraiment son temps à chercher à comprendre pourquoi et comment le mouvement n'est pas entièrement viable. Du coup, le livre est plutôt complet, la bibliographie, elle est énorme, et je trouve que ça reste toujours critique, curieux, pertinent de par ses constantes remises en question. Et du coup, ce qui est plutôt bien, c'est que la fin du livre te donne vraiment envie de pousser l'analyse encore plus loin, d'ouvrir de nouveaux livres et de continuer toi-même l'enquête. Un goût de frustration donc, et il faut le dire, selon moi, c'est la meilleure fin qui soit. Bon, bref, alors c'est quoi l'écoféminisme ? On va partir de l'enquête théorique que Burgart met en place. Donc, elle se retrouve confrontée à plein de problèmes de définition. Oh, surprise ! Et oui, il n'y a pas un écoféminisme, mais bien plusieurs. Alors d'ailleurs, pour la parenthèse, en lisant donc l'introduction de Emily H. dans Reclaim, elle dit que non, il y en a bien un seul. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu passes ton temps en fait à
jongler. Voilà. Mais comme sur le féminisme en fait,
c'est
tout
ça. Mais complètement. Et tu vas voir, on retrouve des différentes écoles qui sont les mêmes que le féminisme. Du coup. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça allait plutôt pas mal avec les thématiques du postmodernisme, dans ce que j'ai lu en tout cas, et les thématiques en question, c'est celles qui rejettent l'idée d'un grand récit, unique et universel. Donc c'est toujours ce fameux récit de l'homme blanc, occidental, le colon, etc. Et donc non, nous vivons dans la diversité, donc il existe une pluralité de récits. Et ça d'ailleurs on le retrouve aussi pas mal chez Haraway qui met toujours ça en avant sur le fait que il faut toujours mettre en avant les ramifications multiples et arrêter avec un récit toujours le même en plus qui est un peu chiant voilà. Si je peux citer une phrase, page 131 si vous voulez ouvrir vos cahiers, l'écoféminisme c'est l'interconnexion des dominations, c'est postuler tout un réseau de liens cachés entre sexisme, racisme, crise écologique, colonialisme, spécisme, ce qui permet de revisiter des phénomènes, des grands récits sous un jour nouveau, de dire que l'histoire de la destruction de la nature va de pair avec l'histoire de l'oppression des femmes permet de réécrire l'histoire d'un point de vue inédit. Cela permet entre autres de mettre en lumière des points aveugles du récit dominant. Et en vrai, donc pour fermer la quote, là, la citation, je trouve ça génial parce que c'est ça qui m'a fait lire aussi le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, qui est aussi super intéressant parce que justement, c'est Olivia Gazalet, je crois, qu'elle s'appelle l'autrice. Elle retransmet dans ce bouquin un petit peu l'histoire cachée qu'on n'a jamais trop dans les livres d'histoire qu'on a à l'école. Et c'est l'histoire, du coup, des femmes, en fait. Et c'est très intéressant. Ouais, voilà. Du coup, pour continuer, le leitmotiv, comme dit Burgart, est le suivant. Être écoféminisme, ce n'est pas seulement être féministe et écolo, c'est plutôt voir des liens entre l'exploitation et la brutalisation de la terre et de ses populations d'un côté, et de l'autre, de la violence physique, économique et psychologique perpétrée quotidiennement envers les femmes. Être écoféministe, c'est donc rêver potentiellement d'une société enfin au féminin qui serait le non-pouvoir, et non le pouvoir aux femmes. Être écoféministe serait donc abolir tout principe de domination et de pouvoir sûr. Donc voilà, ce que je comprends au fil de ma lecture, c'est que parmi les personnes qui se déclarent écoféministes, on trouve souvent des écoféminismes intersectionnels, antiracistes, anticapitalistes, engagés dans la lutte des classes et parfois même anarchistes.
Ah, les pires.
Voilà. Du coup, je vais très rapidement parler de Françoise d'Aubonne, en fait, pourquoi ? C'est une femme qui est française, qui a écrit énormément dans les années 60-70. C'est elle, en fait, qui a inventé le terme écoféminisme. Alors après, encore une fois, on voit tout et son contraire, car Emily H. dans Reclaim et son introduction, elle dit que ce n'est pas elle, mais un groupe de femmes qui ont créé ce terme.
En tout cas, elle l'a introduit dans la littérature et dans la langue française. Quoi.
Et c'est bien que tu dis ça, car en fait, elle l'a introduit en 1974 dans son livre « Le féminisme ou la mort ». Et du coup, voilà, donc elle parle de ce... Elle met en avant ce terme. Et donc, dans mes notes, je vois qu'elle parle... Donc dans le féminisme ou la mort de 1974, elle parle de l'abolition des rapports de domination, la disparition du salariat, disparition des hiérarchies compétitives et du contrôle démographique. Donc elle prône, hein, le fait d'arrêter de faire des enfants et on n'est qu'en 1974. Alors, ça n'a pas pris en France, en fait, ce mouvement, parce qu'on est tellement... en tout cas, à l'époque, les féministes étaient tellement embourbées, on va dire, dans ce qu'on appelle le tissu féministe de Beauvoirien, qui était trop méfiant, parce qu'en fait, pour elles, la notion écologie était trop rattachée à la notion de nature, qui, pour des féministes de Beauvoirienne, est connotée négativement. Parce que, du coup, la nature qui est rattachée à la femme, c'est un petit peu, on parle encore de la tradition, la femme qui est sensible, etc. Et donc, ça va à l'encontre du concept constructiviste, je ne sais plus comment on dit. Voilà. De Simone de Beauvoir. Alors d'ailleurs, encore une petite parenthèse, ce qui est rigolo, c'est que Françoise Daubonne a quand même écrit une analyse féministe de Simone de Beauvoir en 1972.
Ah oui,
okay. Ouais, et son livre s'appelait La société contre nature. Voilà.
D'accord.
Pour les intéressés. continuons. Alors du coup, le mouvement, il a vachement bien pris, ceci dit, aux États-Unis pendant cette période, parce qu'en fait, il y a eu pas mal de mouvements de femmes dans les années 70-80 qui allaient dans la rue, quoi, pour dénoncer la radioactivité, c'est pas ça, mais les centrales nucléaires. Voilà.
Yes.
Et donc du coup, elles ont je sais pas si c'est vraiment si elles l'ont fait de manière consciente, mais en tout cas ça a été un mouvement pour l'écologie, un mouvement de femmes. C'était souvent des femmes qui se regroupaient et qui, pour protéger leurs enfants, vu que c'est elles les premières concernées, vu que c'est elles qui mettent au monde, pour protéger leurs enfants, leur santé, etc., qui ont mis en place des grands mouvements comme ça. Du coup, c'est devenu un terme aux États-Unis théorique, qui a commencé à avoir plusieurs définitions. On peut distinguer deux catégories, et donc petite parenthèse encore, mais Emily H n'y voit pas ces deux catégories, mais Burgart oui. Donc il y a les matérialistes d'un côté, donc je cite, où le patriarcat et le capitalisme sont deux systèmes qui ont fait émerger le patriarcat capitaliste, qui est donc à l'origine de l'assujettissement des femmes et l'exploitation de la nature. Et de l'autre côté, on a les spiritualistes. Donc pour celles qui ont déjà entendu parler de Starhawk, par exemple, qui a remis au goût du jour, on va dire, la religion païenne Wicca. Voilà. Donc ça va être les spiritualistes qui apportent donc la dimension spirituelle, qui vise à dénoncer le patriarcat monothéiste et qui se réapproprie, reclaim, la relation femme-nature, souvent dévalorisée par l'homme, associant à la nature les valeurs mineures dites féminines. Ce que j'aime beaucoup dans ce mouvement, en fait, c'est que alors on dit dichotomie, c'est ouais. Ça, entre nature et culture, qu'on nous bassine là depuis des années et des années, voire des siècles, elle est complètement remise en question. C'est-à-dire que pourquoi on passe notre temps à opposer la nature avec la culture, et pourquoi on n'essaye pas de se réapproprier ce terme nature, c'est-à-dire de quelle nature on parle, qui sommes-nous dans cette nature, est-ce que c'est juste un paysage comme ça qui n'a aucune action, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas une interconnexion à avoir avec elle. Et ça, c'est des principes que Donna Haraway met vachement en avant et qui sont très intéressants. Voilà, et donc pour finir assez rapidement, en fait, dans la partie pratique, Burgart, elle va à la rencontre de plusieurs femmes, donc elle va à la rencontre de Fatima Ezzara Benomar, qui fait partie des Effrontées, un collectif qui a été créé en 2012. Elle a créé aussi le SAFE, le squat artistique, féministe et écologiste. Donc elle y va pour lui poser des questions. Elle rencontre aussi Isadora, une doula et sorcière qui organise des cercles de femmes pour leur apprendre à se réapproprier leur corps. Voilà, donc je ne vais pas citer toutes les personnes qu'elle rencontre, mais c'est plutôt intéressant de voir les avis de femmes, en fait, dans ce courant. Et du coup, après, elle part en Inde, direction Navdanya, qui veut dire nouvelle semence en hindi. En fait, elle va à la rencontre de l'ONG qui a été créée par Vandana Shiva, qui est une grande figure de l'écoféminisme des années 70-80. Et du coup, elle y va un petit peu pour savoir si est-ce que tous ces principes écoféministes de pas d'hierarchie, on est tous égaux, on est tous en face avec la nature et tout, est-ce qu'ils sont bien mis en place ? Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'il se trouve que non. Et du coup, les questions du féminisme post-colonial, c'est-à-dire réussir à voir est-ce que notre féminisme occidental de blanche middle class correspond vraiment à ces femmes du Sud. Et donc, on en vient à la problématique des féminismes. Il n'y a pas un féminisme, mais bien de multiples féminismes. Et bref, c'est mind-blowing.
Yes.
Bref, et donc pour conclure, j'ai noté, ce n'est pas mettre sur le dos des femmes la responsabilité du bien-être de notre chère planète qu'être écoféministe, parce que ça, c'est les petits raccourcis assez faciles, genre, ouais, les filles, écoféministes, bon, bah, du coup, c'est vous qui allez sauver la Terre. Non, non, non. Ce n'est pas non plus un pseudo-féminisme élitiste adepte du greenwashing, mais peut-être que c'est toucher à tout, pour toucher tout le monde, là où il se trouve, c'est continuer à se poser mille questions sur ces paradoxes et ces ambiguïtés, mais c'est surtout en parler, en débattre, c'est le vivre.
Wow.
Voilà, donc
boum, ok, trop
je classe. Vous conseille ces petites lectures, et puis surtout, en fait, je crois que ce qui est intéressant là-dedans, c'est commencer à se sentir concerné aussi par ce qui se passe, et même si malheureusement la force n'est pas dans nos actions individuelles, c'est vraiment dans le collectif, et si on se rassemble et qu'on va tous renverser l'Elysée, j'en sais rien, peut-être qu'il se passera un truc, mais en attendant, c'est pas en éteignant ta lumière parce que tu sors d'une pièce que tu vas ranger les choses, quoi.
Putain, t'es en train de lancer un mouvement,
ouais,
là,
désolé.
Là, rendez-vous tous demain dans l'Elysée. Mais oui, mais ça, c'est une grande question du combat, enfin, de tous les combats sociaux, la place de l'individu dans le collectif aussi, et je pense que l'écoféminisme le remet vraiment en question, et c'est effectivement est-ce qu'on est dans juste la concentration de tous les petits gestes qu'on considère utiles, et on nous bassine tous les jours sur la notion aussi de responsabilité, vous êtes responsable de la planète, vous êtes responsable de votre sort, etc. Mm-hmm. Et en même temps de l'envisager dans un cadre beaucoup plus élargi de ce qu'on en fait dans l'éducation des hommes, l'éducation des femmes aussi, parce que c'est hyper important, et je trouve que c'est hyper important ce que tu as dit, et d'où l'intérêt de lire aussi différents auteurs et autrices pour comprendre en fait justement la complexité de ces points de vue là, qu'il n'y a pas une unité en tout cas dans ces combats sociaux là, c'est heureusement qu'il y a une diversité, heureusement qu'il y a une divergence de points de vue parce qu'il y a du débat, et
bah
que
oui.
Y a que comme ça qu'on fait avancer aussi les choses, et que ça fait un peu peur justement la pensée unique. Donc quand on nous bassine de ah mais vous n'êtes pas d'accord entre vous et tout, enfin c'est pareil pour l'écologie, c'est pareil pour plein d'autres sujets, et voilà, et du coup ces bouquins là sont assez j'ai l'impression quand même fondateurs dans cette pensée là, donc
carrément.
Donc hyper cool, merci pour cette découverte.
Merci.
Et juste pour rebondir, pour terminer un petit peu sur le sujet, quand tu m'as dit que tu allais parler d'écoféminisme, moi j'ai essayé de trouver une BD en fait qui pourrait rejoindre ce thème-là. Et en fait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a une adaptation d'un roman en fait, un classique du genre qui s'appelle Dans la forêt de Jean Eglint, qui met en scène des femmes au cœur de la nature dans une société en fait en plein bouleversement. En gros, c'est la grosse merde. On se retrouve avec 2 sœurs qui essayent de survivre dans un monde post-apocalyptique. Et là où on pourrait croire que c'est un récit juste de genre, en fait, on se concentre vraiment sur la relation de ces 2 nanas qui vont en fait tout faire pour juste pour vivre en fait. Et c'était moi, c'est un roman que je connaissais pas du tout. On en parle beaucoup justement parce que d'un point de vue écologique, ça met en place un peu l'effondrement des civilisations suite à des guerres, des attentats, des accidents nucléaires, phénomènes naturels de grande ampleur, des choses qu'on commence à bien connaître maintenant.
Ouais.
Et du coup, il y a cette maison familiale où ces 2 sœurs vont essayer de survivre. Elles attendent une espèce d'hypothétique retour à l'électricité, à la vie normale, mais il n'en sera rien. Et je vais pas vous raconter la fin, mais il y a vraiment ce rapport de l'être humain, bien sûr, face à la nature, mais surtout 2 femmes qui résistent, qui ont une posture et une posture vraiment signifiante dans la survie en fait. Et justement, chaque intrusion de l'extérieur, ça va être que des hommes d'ailleurs.
Ah bah tiens.
Et donc hyper intéressant sur les symboles justement, tu vois, véhiculés. Et voilà, et cette adaptation, elle a été faite Par l'OMIG, qui est vraiment bien, enfin qui met vraiment bien en avant l'idée de d'un espèce de huis clos en fait en pleine nature, tu vois, en jungle entre les deux extrêmes. Et finalement la question du survivalisme, elle est juste, c'est juste un décor et on est vraiment concentré sur sur ces questions-là de féminisme. Voilà, c'était un joli coup de cœur et puis moi ça m'a permis de découvrir le roman, tu vois, original que je connaissais pas du tout. Donc vraiment une belle réussite qui prend bien nos tripes, donc c'était aussi une belle découverte BD.
Trop bien.
Et puis il faut savoir que bah si vous voulez lire sur l'écoféminisme, bah il y a toujours le rayon féministe à BD lire, il y a de plus en plus de choses édité, réédité aussi.
Beaucoup de rééditions
parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on a inventé là maintenant.
Et ça n'est pas trop pris en France. Et là, c'est en train de. C'est vrai qu'il y a un intérêt qui revient et c'est plutôt cool. Je suis en train de chercher là une citation dans le bouquin, mais je la trouve pas. Sur un moment, Émilie H, là, dans son intro, elle dit on a plus assimilé le fait qu'on tendait vers une fin du monde plutôt qu'une fin du capitalisme. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai, en fait.
Genre,
comme si la fin du capitalisme était vraiment inenvisageable. On allait juste tous crever. En fait, il y a d'autres choses. C'est marrant.
C'est exactement, la fin de la BD et du livre, c'est exactement ce postulat-là. Et c'est ça qui est juste hyper intéressant. Donc, génial. Tu voulais rajouter quelque chose
par pas tant. En vrai, si vous avez des envies de lecture là-dessus, je pense que il y a ce qu'il faut en effet à BD lire, tu l'as dit. Et puis Donna Haraway, du coup, c'est vraiment ma dernière lecture qui m'a éclatée sur plein de trucs différents et notamment sur le fait que il y a les histoires qu'on raconte, lesquelles sont-elles et est-ce que ce serait pas intéressant de raconter d'autres histoires que toujours le truc du héros un peu chiant on connaît quoi. Donc réinventer des mythes, réinventer des récits, des histoires pour les générations à venir, pour avoir d'autres exemples et des choses en fait qui sont possibles autrement. Voilà.
Classe. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, je ferai pas mieux. En fait.
On peut chiner.
Mais ouais, on remercie les 10 filles de nous accueillir. Ouais. Et puis maintenant on va t'écouter pour terminer. Ah oui. Je sais pas sur quoi tu veux qu'on termine.
Je sais pas quel morceau
surprise.
On va mettre.
Okay.
Surprise.
Et on verra bien. À bientôt.
Au revoir. You know better than the others. You find comfort in the reasons. When you come to me, you broke. It's like your heart is again stolen. It's not the first time we talk about emotion. You gotta hold all your devotion. I know it's hard and not to be chosen, but I promise you it gets better. You're not the only one to feel lonely. We're all snowflakes waiting to melt on cheese. What's the use of so much violence? Know your place in the universe. You're a tiny misfit. It's not the first time we talk about emotion. You gotta hold all your devotion. I know it's hard and not to be chosen, but I promise you it gets better. You're not the only one to feel lonely. We're all snowflakes waiting to melt on cheese.